Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Bonjour Michel, bonjour. Nous sommes à l'antenne aujourd'hui, une fois de plus. Alors aujourd'hui, les questions de sidérurgie. Sidérurgie à Longwy, en Lorraine. Radio Lorraine, Cœur d'Acier. C'est une radio qui a existé de 1979 à 1980. Une radio très courte. Les voix de la crise. Alors voilà ce qu'il en a été. En 1976, le chanteur Bernard Lavillier, dans la chanson La Vallée de la Fenche, évoque la Lorraine sidérurgique, où le travail rente les hommes dans l'usine de Wendel, mais donne une place dans la société. Un quart de siècle plus tard, dans une autre chanson, le chanteur donne la parole à un ouvrier. C'est une chanson. Alors, je vais pas la chanter parce que je ne sais pas chanter. Voici donc l'intitulé. Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminées muettes, portails verrouillés. Wagons immobiles, tours abandonnées. Plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. Je voudrais travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Je ne peux plus exister là. Je ne peux plus habiter là. Je ne sers plus rien, moi. Il n'y a plus rien à faire. Quand je ne fais plus rien, moi, je coûte moins cher, moi. Voilà. C'était donc les paroles de Bernard Lavillier. Alors, à travers ces chansons, Bernard Lavillier, indéfectible soutien des ouvriers sidérurgistes, évoque le destin de la Lorraine. À partir de 1979, la crise, les restructurations et le chômage se sont abattus sur cette région, qui devient ainsi une région sinistrée. C'est sur cette transformation majeure que revient le livre d'Ingrid Hayes, maîtresse de conférences en histoire à l'Université de Paris-Nanterre, etc., et auteur de plusieurs articles sur le sujet. Bon. Cette rupture affecte le monde ouvrier local à un moment où l'ensemble du monde ouvrier français et européen est déstabilisé. En effet, après longtemps d'insubordination, les années 1968, le mouvement ouvrier français est confronté à une crise durable et multiforme. C'est celle-ci que présente cet ouvrage à partir d'une expérience de radio libre lancée, puis muselée par la CGT. Alors pourquoi museler, ça, je ne sais pas. Peut-être que ça ne plaisait plus. Alors le bassin de Longwy, région enclavée de mono-industrie, dépendait encore largement de la sidérurgie à la fin des années 1970. Cette activité connaît des difficultés dès les années 60. Mais c'est en décembre 1978 que la crise s'affirme, nettement avec d'importantes suppressions d'emplois. 8500 annoncés par Sacylor et 12500 par Usinor, déjà à l'époque. Voyez un peu maintenant. En particulier en Lorraine, le coup est terrible pour la région. Le mouvement syndical confronté à de nouveaux défis réagit de manière classique avec la création d'une intersyndicale à Longwy. L'organisation de manifestations plus radicale avec de nombreuses actions coup de poing, mais aussi de manière originale, avec la création de radio locale, Radio Lorraine Cœur d'Acier, c'est la radio en question. Magnifique Nord est une initiative lancée en mars 1979, après que la CFDT de Longwy, qui est un syndicat d'ailleurs, fort combative qui s'oppose à sa direction nationale, a mis en place une première radio syndicale, SOS Emploi. En décembre 1978, celle-ci sur laquelle le lecteur aurait aimé en savoir plus, émet avec l'appui d'une radio pirate alsacienne, de sensibilité écologiste, jusqu'à la fin de l'année 1979. En effet, fleurissent alors en France des radios libres, souvent animées par des contestataires, pour lutter contre une information jugée muselée par le pouvoir. En 1979, pour préparer une journée nationale de manifestation à Paris, la CGT crée Lorraine Cœur d'Acier, LCA, qui émet depuis Longwy. Cette radio perdure au-delà malgré le refus de la mobilisation des sidérurgistes, bien plus elle acquiert localement une place importante dont témoignent les vifs affrontements avec les forces de l'ordre après la tentative de brouillage du 17 mai 1979. Elle est animée par trois journalistes professionnels proches de la CGT. Parmi eux, Marcel Triat, des responsables syndicaux, politiques ou associatifs, et des intervenants de sa mandat. Pour la plupart issus du bassin d'Hongrie, néo-militants ou non, un nombre significatif de femmes au foyer se joignent ainsi à cette équipe, qui évolue au fil des mois. Les historiens se souviennent peut-être que Gérard Noiriel, alors jeune enseignant membre du PCF, avant d'être connu pour ses travaux sur le monde ouvrier et l'immigration, anima, une émission historique. Il publiait avec Benasser Azaoui, à Eugénie Nord et militant CGT. Un livre sur cette lutte, « Vivre et lutter » à Longwy. Maspero, 1980. L'expérience dure des mois, infléchit la vie d'un certain nombre de personnes et animateurs radio-improvisés, militants syndicalistes ainsi que celles des femmes au foyer qui y viennent. Voilà. La soutiennent sans cependant intervenir sur les ondes. La radio se veut relativement ouverte aux autres catégories sociales. À d'autres courants politiques, voire parfois à la CFDT locale, et à ce moment-là, où le PCF, qui est rompu depuis peu avec le PS, voilà, suit une ligne sectaire et est confronté à des critiques internes. La direction de ce parti essaie par ailleurs d'imposer ses positions donc à la CGT, dont sa résistance de certains CGTistes. Néanmoins, la sensibilité alignée sur le PCF parvient à infléchir l'orientation de ce syndicat sur le plan national et local. Le temps de l'ouverture est passé, la reprise en main de la radio et l'arrêt du versement des salaires aux journalistes à l'été 1980 suscitent toutefois débats et désaccords qui marquent encore les mémoires à la reprise des émissions, voilà, avec une nouvelle équipe alignée sur la direction de la CGT ne dure que quelques mois, de novembre 1980 à 1981. Après, nous écouterons un enregistrement remis au goût du jour. Voilà. La fin des années 1970 marque bien un retournement de cycle économique, social et politique, pour reprendre la vieille formule. Des secteurs industriels majeurs entrent en crise, licencient de nombreux ouvriers, ce qui affecte fortement d'anciennes régions industrielles, où le syndicalisme était puissant. Le recul du nombre d'ouvriers s'accompagne d'un effacement de la centralité ouvrière en termes idéologiques et politiques. Par ailleurs, les partis de gauche unis au début des années 1970 se divisent. Et ces divisions affectent le mouvement syndical, recentrage de la CFDT avec la mise à l'écart de ceux qui contestent cette orientation. Ligne sectaire de la CGT imposée par une partie de l'appareil contre la vision de Georges Segui. Voilà. Bon, l'auteur a travaillé à partir de sources écrites, archives syndicales et archives privées, d'enregistrement d'émissions de la radio, conservées aux archives départementales de Seine-Saint-Denis et d'entretiens avec une vingtaine d'acteurs ayant participé à cette expérience. Elle présente un travail en trois temps. La première partie, qui aurait peut-être gagné à revenir de manière plus détaillée sur la lutte des idéologistes, Lorraine, présente la vie et la mort de cette expérience inédite. Cette partie permet de voir qu'un syndicat n'est pas un ensemble monolithique et que la CGT n'est pas forcément capable d'innover. Dans une deuxième partie, sont évoquées l'émergence d'un collectif militant et ses valeurs, ainsi que l'ouverture dont se voulaient porteurs les animateurs de la radio. Enfin, des dominations qui sont analysées par l'auteur dans la dernière partie, domination symbolique et culturelle des journalistes. Par rapport aux autres intervenants, domination subie, voilà, par les femmes souvent dénoncées à l'antenne, mais qui réapparaît à d'autres occasions. Enfin, l'existence d'émissions destinées aux immigrés, maghrébins en particulier, ne semble pas avoir facilité les relations entre les ouvriers originaires du Maghreb et d'autres fussent-ils d'origine italienne. Voilà. Bon, l'intérêt de cet ouvrage est de revenir un moment charnière dans l'histoire sociale française. Le lieu, la Lorraine, le moment, la fin et le début. Le secteur économique, la sidérurgie et lieu, la Lorraine, le moment, la fin des années 70. Voilà, et j'en resterai là pour l'instant. Je vais demander à Michel de mettre un peu de musique. Et voilà. Ouais, tu peux y aller, Michel, pas de souci. Voilà, cela va venir. Après, on s'arrangera pour le blanc.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvère, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour, blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran, et dans la salle obscurément, des mains se cherchent, des mains se trouvent timidement. Belle, 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 la revoilà, et dans la salle plus d'un corbat. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas pas loin de Saint-Cucufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cowboys sans foi ni loi, et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, 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 il coupait, s'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car l'anlade n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un croton de pain. Gar, 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 pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu Cigari sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants.
Voilà, maintenant nous allons écouter un enregistrement d'époque remisé au goût du jour. Cela est très long, cela dure une heure. On se contentera tout simplement de quelques minutes, 10 minutes maximum. Voilà.
Lorraine Cœur d'Acier, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes sur 100 MHz sans modulation de fréquence et que notre numéro de téléphone est le 223 22 35.
LCA, ça a duré 16 mois. 16 mois. C'est-à-dire même après une baisse d'intensité des luttes, elle a continué à exister parce que les gens avaient perdu la sidérurgie, la bataille de l'acier a été perdue. Donc, qu'est-ce qu'il leur restait ? Ben, leur moyen d'expression. Hein ? Parce que là, il y a le chiffon rouge, hein, ce qu'on faisait taire. Eh ben, ils pouvaient continuer à s'exprimer. Hein, parce que vous savez que le chiffon rouge a été l'hymne des travailleurs à Longwy. Elle est passée à la radio, après les gens l'ont pris à leur compte, et pour ça, après le chiffon rouge, les gens avec les voitures, sur les voitures, avaient un petit chiffon rouge. La chanson, c'est « Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge ». Hein, accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Tu crevais de faim dans ta misère. Voilà, bon, c'était quelque chose qui correspondait bien à la lutte des gens.
Un morceau de chiffon rouge.
Il y a des années qu'il y a des fous qui essayent de créer des radios libres. Et puis toc, tout d'un coup, dans un endroit, dans une lutte, ce rêve devient réalité.
Un morceau de chiffon rouge, épisode 1, Longwy vivra.
Union, action, CGT. Union, action, CGT.
Eh ben le micro, pour moi, c'est qu'une revanche, j'ai pas honte de le dire. C'est un outil de lutte, oui, mais je m'en suis servi aussi comme un outil de revanche.
Écoutez,
j'ai une revanche à avoir.
Si on veut sauver l'usine de Longwy,
un morceau de chiffon rouge,
eh bien, vous vous rassemblez tous ensemble.
Épisode 1.
Comme un seul homme.
Longwy vivra.
Lorraine, cœur d'acier, 102 MHz.
Les patrons avaient justement... ils avaient posé leur cul sur toute la région.
Michel Olmy, secrétaire de l'Union locale CGT de Longwy en 1979.
L'emploi ici, de père en fils, à ce moment-là, hein, vous alliez à l'usine, de père en fils. C'était leur vie, il n'y avait que ça. Vous ne saviez faire que ça. L'eau fournisse, la sérisse, ils n'avaient que ça comme formation. Et ils nous ont... enfermés là-dedans. Donc, vous n'existez que par ça. Et les patrons, ils sont pas bêtes, les patrons. Ils jouent avec ça.
Si on veut sauver l'usine de Longwy, eh bien, vous vous rassemblez tous ensemble, comme un seul homme, dans l'usine de Senel, aujourd'hui. Et dès que nous revenons de Metz, on vous fera un compte rendu, et c'est vous tous qui déciderez de la suite à donner à notre lutte, camarades.
Longwy, il se passe qu'en décembre 78, ils apprennent la liquidation de la sidérurgie, en gros, quoi. Suppression de milliers d'emplois, catastrophe économique, et annonce de la liquidation totale de la sidérurgie. Ils ont tout de suite compris le message, et donc ça crée une espèce d'ambiance de révolution dans la région. Et la CFDT, qui était branchée avec certains groupes qui faisaient de la radio pirate, dès le début de la lutte, crée avec l'aide de Radio Fessenheim, je crois, une radio pirate qui s'appelait Radio SOS Emploi. Et donc, cette radio CFDT était peu entendue, mais elle était extrêmement prestigieuse, quoi. Elle était un peu le symbole du côté Robin des Bois, quoi. Symbole de la lutte, du refus des oukases du gouvernement et de l'Europe.
Marcel Tria, journaliste et animateur de Lorraine Cœur d'Acier.
Donc la CGT, à un moment, dit à la Confédé, on veut nous aussi notre radio. Donc on arrive avec Jacques Dupont et puis un copain technicien et on discute avec l'Union locale. Donc Michel Olmy, Jean Soulignac et quelques autres. Et des représentants des syndicats d'Usinor.
À ce moment-là, nous avons, avec Marcel Tria, il était venu me voir avant. Je l'ai rencontré dans, c'est une petite anecdote, il est venu me voir dans le bureau à l'Union locale CGT. J'étais avec un ami qui s'appelle Jean Soulignac, qui est décédé depuis. Et il est venu nous voir pour savoir dans quelles conditions on pourrait créer cette radio.
Alors la première chose qu'on leur dit, écoutez, bon, il y a un premier problème, c'est que si on fait une radio pirate, on commence à émettre et un quart d'heure après, il y a 400 CRS qui cassent tout, qui nous chassent, qui piquent le matériel, etc., etc. Donc si on fait une radio comme ça, est-ce que vous êtes capable de la protéger ? De façon à ce que les flics ne puissent pas venir.
J'ai dit là-dessus, pas de problème. Les CRS ne craignent rien, il n'y aura pas de CRS. Le rapport des forces nous est favorable. On peut la faire ouverte sur la population, il n'y aura pas de problème.
Bon, il n'y a pas de problème. Parce que nous, on leur a dit tout de suite, il faut faire une radio avec un gros émetteur, de façon à arroser tout le bassin. Sinon, ce n'est pas la peine, ça n'a aucun intérêt. Et il faut une radio qui ait un point de chute, qui ait un siège où les gens puissent venir, un studio ouvert, où les gens puissent venir intervenir sur l'antenne en direct ou téléphoner en direct, mais que tout le monde sache où c'est et que ce soit porte ouverte. Ça, ils disent, il n'y a aucun souci.
Deuxième condition... il nous dit, voilà, nous, en tant que journalistes, on veut un concept d'ouverture, de pluralisme et de liberté d'expression. Oh, j'ai dit d'accord, hein, bon, pas de problème. Mais je lui dis, ça veut dire quoi ?
Parce qu'une radio libre, pour nous, c'est une radio libre. Ça veut dire une radio où il y a la parole libre.
Il dit, bien sûr, la CGT aura son mot à dire.
C'est la radio de la CGT, d'accord.
Elle sera quand même... les luttes seront prioritaires. Hein. Nous allons faire une radio où tout le monde pourra s'exprimer. Alors, j'ai dit, qui pourra s'exprimer ? La CDT. Bon, j'ai dit, ça va. Les partis de gauche. Ouais. Bon, et puis c'est tout. Non, la droite. La droite aussi ?
Oui, la droite aussi.
Bon, les patrons. Et à un moment donné, il me dit, il n'y a que l'extrême droite.
C'est le Front National, ça c'est pas une opinion, c'est un délit. Le discours raciste, on n'en veut pas. Mais à part ça, tout le monde. Les gauchistes aussi. Et à l'époque, on est en pleine bagarre, quoi. Les gauchistes, c'est l'ennemi, quoi. Hein. C'est quand même pas très longtemps après mai 68. C'est dans un endroit quand même assez pur et dur. Un peu sectaire quand même, hein, un peu beaucoup même pour certains. Donc on dit, bah oui, oui, les gauchistes, oui. Oui. C'est-à-dire les pro-chinois, les trotskistes, enfin les gauchistes, oui, absolument. Ils ont le droit à la parole, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, bah, vous discutez, bah, c'est tout. Et vous êtes assez grand pour leur répondre. Faut qu'on cause, ils disent. On sort pendant 10 minutes, on fume des clopes dans le couloir de l'Union locale. On entend des éclats de voix, ça discute, etc. C'est un peu gueulard.
Alors, bon, nous, on réfléchit. Putain, je dis, moi, je sais pas si ça va être... comment ça va être pris. On est qu'à deux, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas le temps de réunir les organismes de la CGT, parce qu'on est, dans une lutte intensive où tout va très vite, quoi. Ils sortent, 10 minutes, on réfléchit à tous les deux, de toute façon, on n'a pas le choix. On verra. Nous, ce qui est important, c'est que la radio, elle démarre pour préparer la marche du 23 mars. Son truc d'ouverture, liberté d'expression, c'est pas notre souci pour l'instant, on verra. Donc il est revenu et on lui a dit, banco,
banco. Hein,
on y va comme ça, et après on a débouché une bouteille de champagne.
Et c'est parti comme ça. Et la chance de cette radio, ça a été d'une part d'être dans un contexte de lutte avec protection du studio, et puis d'autre part, c'est cette décision qui a été prise par eux et par nous, conjointement, de faire de cette radio une radio de libre parole, sans aucune limitation, sans aucune censure. Et troisième chance, c'est que ça se situe en 79, alors ça c'est très important, le contexte politique national. En décembre 78, il y a eu le 40e congrès de la CGT, au cours duquel Ségui, Georges Ségui, secrétaire général, et son équipe, ont lancé une nouvelle donne, quoi, une nouvelle politique d'ouverture, de démocratisation du syndicat, d'unité d'action avec la CFDT et d'indépendance par rapport au PC. Cette politique-là a été approuvée par 92% des congressistes. Donc elle est vraiment majoritaire dans la CGT. Et donc nous, on se situe dans ce contexte-là d'ouverture. Donc on est soutenu au départ par la Confédé sur nos positions de liberté de parole, etc.
Bon, mes craintes se révéleront plus tard que... Bon, il y a eu des bombes à retardement, notamment quand Krivine est venu. Ce qui a... Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Je rappelle que vous êtes sur Radio Galère 88.4 à l'écoute de l'émission Article 25.
Ah, voilà. Ce que vous avez, auditrice, auditeur, ce que vous avez entendu, c'est c'est quelque chose qui est très ancien, qui a été remis, donc fixé sur un CD, tout simplement. Voilà. J'espère que cela vous a plu. Bon, cela, on aurait pu continuer, mais il y avait exactement pour une heure donc dans ce fameux CD-là, donc cela n'était pas possible. Nous continuons quand même notre émission, et toujours sur le même, toujours pareil. Et après, nous irons faire un petit tour sur les différentes radios libres qui se trouvent en France, donc chez nous, quoi, dans notre beau pays. Et si on a le temps, eh bien, on parlera un peu ce qu'on appelle des élections municipales qui auront lieu à Marseille, hein, où il y a une triangulaire avec M. Payan, avec, et deux autres dont j'ai oublié le nom. Voilà. Allez, on continue l'émission. Donc voilà. Je fais maintenant un petit rappel. Hein. Radio CGT de lutte et de liberté. Un coup de massue donc sur la tête des sidérurgistes et la population de Longwy, qui entraînera le soulèvement populaire et solidaire contre ces décisions iniques et dramatiques pour la cité du fer. Bon, le 19 décembre 1978, sous l'égide de l'intersyndicale CGT, CFDT, FO, CGC, Confédération Générale des Cadres, 25 000 manifestants défilent sur ensemble à Longwy, bas, pour clamer haut et fort la volonté et leur détermination de vivre, étudier et travailler au pays. Le point de départ de plus de 6 mois de colère, de révolte et de résistance par des opérations coup de poing décidées par chaque syndicat, occupation de la Banque de France, bonne chose. Hôtel des impôts, Agence nationale pour l'emploi, la NPE, oui, à l'époque ça s'appelait comme ça, relais de télévision, attaque contre le commissariat, saccage de la chambre patronale de la métallurgie, bon, tout ça, c'est des actions qui ont été faites, donc, dans les années, c'est très loin maintenant tout ça, hein. De la préfecture de Briey, séquestration du directeur de la chasse, bureau de Ginor, Mont-Saint-Martin, déversement de minerais sur les voies, vol de la Coupe de France à Nantes, kidnapping de Johnny Hallyday. Alors là, ça a été quelque chose de terrible. Enfin, ça s'était monté de toutes pièces, c'était comme ça. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que l'on parle. Bon, l'intersyndicale mobilise la population avec des grandes manifestations de masse. À Metz, 80 000. Nancy, les flammes de l'espoir. 12 000 à la grande marche sur Paris, le 23 mars 1979. 150 000 le 1er mai. Là, ça faisait du monde à Paris, croyez-moi. Allez, on continue donc sur la lancée, puisque nous y sommes. Hein. Rien ne pouvait empêcher ce désastre économique. La messe était dite, que pouvait-on faire de plus? Longwy serait rasé sur l'autel de la rentabilité financière. La bataille de l'acier sera perdue, mais les sidérurgistes ont obtenu, grâce à une mobilisation exceptionnelle, des avancées sociales importantes telles que la pré-retraite à 50 ans. La CGT, contrairement aux autres organisations syndicales, refusera de signer en 1979 la convention sociale pour ne pas entériner la fermeture des usines du bassin de Longwy et de Lorraine. Fort du résultat acquis, l'espoir des Longwy se reportera sur la victoire d'un gouvernement de gauche à l'élection présidentielle de 1981. Voilà, 1981, toujours pareil, les promesses non tenues d'une sidérurgie forte. En 1980, c'est sous la présidence de M. François Mitterrand, qui était venu donc à Longwy saluer les pionniers du changement et rassuré par un discours optimiste des angoisses des sidérurgistes. C'est pas ça qu'ils auront réconforté, croyez-moi. Hein. Bon, les promesses de maintien d'une sidérurgie déjà forte imputée ne seront pas tenues. Le gouvernement de gauche, PSP, Parti communiste français, voilà, hein, poursuivra en 1983 la liquidation des installations avec l'arrêt du train Feuillard et de l'usine Cooker-Hill-Réaum. 3600 salariés, les travailleurs de Réaum avec le syndicat CGT et le groupe autonome 79-84, regroupant des syndicalistes de tous bords, du bassin de Longwy, en désaccord avec leurs centrales et syndicales, se révoltent avec un sentiment de trahison envers ceux qu'ils avaient portés au pouvoir. La reconversion industrielle avec le PED, Pôle européen de développement, mis en place en 1985 par Jacques Delors, du gouvernement de gauche, et Jacques Chirac, sera un échec industriel avec les fermetures d'entreprises implantées à coup de subventions publiques. C'est-à-dire, on a injecté de l'argent, puis cela n'a servi à rien. Et d'autres se sont servis, et donc, au passage. Bon, JVC, Panasonic, Daewoo, etc., etc. Bon, donc, de l'argent injecté par l'État et l'Europe. Leur implantation plus pour garantir une certaine paix sociale que pour créer de réels emplois. 5500 prévus dans la réalité, 15 000 créés. 1500 créés, pardon. Je me suis trompé. Évitera le pire, mais pas le problème de l'emploi, qui aurait été plus grave encore sans la proximité de Luxembourg. Qui est d'ailleurs pourvoyeur d'emploi. Avec des salaires supérieurs de 30%. Les radios SOS Emploi CFDT, voilà, et Laurent de Cœur d'Acier, CGT, auront un rôle primordial dans la mobilisation des Longwy. 78-79. La 1er décembre 1969, la fameuse radio, radio pirate clandestine. Bon, à l'époque, la radio, c'était simple, hein, c'était une antenne, un amplificateur et quelques micros. C'est comme ça que ça a toujours démarré. Mais maintenant, bien sûr, il y a eu des progrès là-dedans, quoi. Bon, donc il est mis dans les bois avec un faible émetteur et peu de moyens. Bon, pour ne pas être en reste à la demande de l'Union locale sujetée de Longwy, les instances nationales et départementales avec l'aide matérielle du PCF et des municipalités communistes du bassin de Longwy installent la radio Lorraine-Cœur-d'Acier. Le 17 mars 1979, à 16h30, précis, la première émission avec un émetteur audible, un bon émetteur bien sûr, dans un rayon de 60 km, le studio surnommé l'Aquarium est dans la mairie de Longwy, au l'antenne. L'antenne avec l'accord du curé sur le toit de l'église. Voilà, cet homme d'église était bien. Bon, la CGT affirme clairement la non-clandestinité de sa radio illégale, voilà, parce que c'était encore illégal, en émettant un visage découvert et en la plaçant sous la protection des chirurgistes et de la population de Longwy. Deux journalistes professionnels, Marcel Trier et Jacques Dupost, sont chargés par le secteur propagande de la CGT d'animer la radio et de préparer la grande marche des chirurgistes du 23 mars 1979. Et voilà, une radio de lutte et de libre-parole. LCA devient sous l'impulsion des journalistes une radio de lutte ouverte, pluraliste et de libre-parole. Et contradictoire. Beaucoup de militants CGT locaux adhèrent à ce concept avec enthousiasme. Certains plus timidement avec des réticences compréhensibles. D'autres s'y opposent d'abord comme Marcel Donati, premier lamineur à Co-Kéril, Réon, élu CGT. Une figure ouvrière à Longwy, il deviendra un défenseur acharné de LCA. Elle a été mon école, le plus grand événement de ma vie, etc., etc., etc. Voilà. Et j'en resterai là donc pour toutes ces explications. Voilà. Allez, un peu de musique et nous reprenons donc l'émission.
Au matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée faute secouée, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des vins. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là, on a trépassé le soir même et voilà. On se retrouve au paradis vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas pas là pour se faire assommer. On est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est temps, qu'autant, on peut finir par obtenir déménagement.
Voilà, 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 voilà. Bien, il est 14h06, encore 25 minutes d'antenne. Nous avons beaucoup de choses ont été dites au cours de cette émission radio, donc cette fameuse radio, Radio Lorraine Cœur d'Acier, qui, à ma connaissance, est toujours en activité. Du moins, je l'espère. Voilà, voilà. Bon, cette radio n'a pas toujours été bien reçue, ni comprise à l'époque. Par les différentes personnalités donc politiques, bien sûr, ça il fallait d'ailleurs s'y attendre. Voilà. Bon, Radio Libre, onde de révolte sur la bande FM, bien nous allons y venir, voilà. 70, bon, à la fin des années 70, des centaines d'animateurs bénévoles se lancent dans la bataille de Radio Libre. C'est les corps des pirates, parce que cela n'était pas encore autorisé, quoi, s'engagent dans un bras de fer contre le monopole d'État, je l'ai dit. Ils font souffler un vent de subversion sur la bande FM. Donc il y a eu des recherches, il y a eu un historien qui s'appelle Thierry Lefebvre, cherchant l'histoire des médias, etc., etc. Bon, il y a eu pas mal de personnes qui ont parlé, donc, qui ont participé, peut-être à ces radios donc, pirates, etc., etc. Donc, l'apparition des anneaux des radios libres, donc, commence, non pas en France, mais naissent aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et à la fin des années 1950, deviennent les relais d'une culture jeune et underground qui s'affirme avec le mouvement hippie. Voilà, hippie pour. Ah, le mouvement hippie, ben, pour ceux qui ont connu ces années-là, c'était les hippies, c'était des gens qui prenaient la non-violence, voilà, en gros, c'est ça, quoi. Bon, ils étaient habillés d'une manière, c'était comme ça. Bon, durant les années 1960 et 1970, les radios libres prennent le large et émettent depuis des cargos au beau milieu des eaux internationales. Et là, ça a commencé à ruer dans les brancards, où la juridiction est suffisamment floue pour permettre à ces pirates des ondes de continuer d'émettre. Il y a eu aussi Radio Caroline et Radio Nordi, internationales, pour ne citer qu'elles. Contribue à façonner une nouvelle culture aux jeunes avides de rock, de soul et de pop, que la radio publique régit par la monopole d'État. Se refuse donc à diffuser en France. Les auditeurs, les auditrices ont déjà une certaine expérience de ces autres longueurs d'onde, grâce aux radios périphériques, soit les stations qui semblent être englobées par le monopole d'État, puisque c'était l'État qui essayait donc de mettre la mainmise dessus, parviennent à émettre sur le territoire national, bon, en diffusant depuis l'étranger, Luxembourg, etc., etc., etc. Bon, actuellement, les radios, associatives, Radio Galère est une radio associative, voilà, par exemple. Voilà. Radio Galère a quand même soufflé les 42-43 bougies. Cela fait 42-43 ans que la radio existe. Et voilà, c'était comme ça. Il est passé beaucoup de monde. Au tout début, ben, c'était un peu la, comment ça s'appelle, ça a été un peu l'aventure, parce qu'il n'y avait pas les moyens techniques que nous avons maintenant. Donc, et le créateur de la radio, de Radio Galère, bien sûr, s'appelait Étienne. Étienne, qui est maintenant décédé depuis pas mal d'années. Et durant toute sa vie, pratiquement, il s'est occupé donc de cette fameuse radio. Il est passé de chef de radio, mais il est passé, comment ça s'appelle, de... Enfin bref, c'est lui qui l'aura qui l'aura fait développer. Voilà. Voilà. Bien, je vais demander à Michel de mettre un petit peu quelque chose et nous reprendrons l'antenne dans quelques minutes.
Oui, ben on va remettre un petit extrait de radio pour vous donner une idée de la radio à l'époque, comment elle se faisait. Voilà.
Appel de la CGT qui rassemble 150 000 personnes.
Soyez les bienvenus sidérurgistes, mineurs de fer ou de charbon, travailleuses et travailleurs et populations de Lorraine. Bienvenue également aux enseignants, étudiants, collégiens qui sont ici présents, et en particulier aux 100 jeunes lycéens représentant les comités de coordination permanente de Longwy et de Thionville. Bienvenue à la délégation de commerçants de Longwy qui ont décidé de fermer leurs rideaux aujourd'hui pour participer à la marche sur Paris.
Fait, vivra, repère, excès, la tour de feu, repère, excès, la tour de feu.
Et si les rongistes de Mécon s'en supéront,
Radio Lorraine, cœur d'acier, que penses-tu de ces manifestations? Jeune homme, pour Radio Lorraine, cœur d'acier, vous ne pourriez pas me dire pourquoi vous manifestez?
Alors, cette radio commence le 17 mars, 6 jours avant la manifestation du 23 mars, mais elle devait s'arrêter finalement. C'était un projet de propagande pour cette manif. Qu'est-ce qui se passe le 23?
Alors, ce qui se passe, c'est effectivement, là on ne sait pas trop où on va.
Michel Olmi.
Pour nous, dans notre esprit, c'était effectivement de préparer la marche. Mais bon, en revenant, déjà, il y a les comptes rendus, il y a eu des interviews qui ont été faites en direct par des équipes qui étaient munies de matériel comme vous et qui faisaient des interviews des manifestants et tout. Donc quand on revient, tout ça passe à Lorraine Cœur d'Acier et bon, tout le monde est bien sûr est extrêmement motivé. Ils ont participé à une manifestation d'une grande importance. Ils savent que là, on est à un point quand même déjà au mois de mars où il y a les négociations avec des discussions, pas négociations avec le gouvernement et les patrons de la sidérurgie. Les choses sont encore bien chaudes parce qu'il y a encore des luttes. Il ne faut pas oublier que la radio, au départ, c'est une radio de lutte de la CGT. Donc c'est bien pour soutenir les luttes. Donc je ne vois pas pourquoi, après, tout d'un coup, on aurait arrêté la radio. Donc voilà.
Comme vous pouvez le constater, c'est pas nouveau. Les radios libres sont bien entendu à l'avant-garde des combats. Pour faire suite à ce petit intermède, là on va mettre un petit intermède musical pour passer à la suite après.
Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser, et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repasse limace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Je tiens à rappeler que vous êtes toujours sur 88.4, hein, Radio Galère, et les trois chansons que vous avez entendues pour, dans cette heure qui a précédé, ce sont des chansons de Boris Vian. Maintenant, je redonne la parole à mon ami Daniel.
Voilà, et nous avons encore 10 minutes d'antenne, alors un petit tour sur les municipales. Je tiens quand même à préciser que ici à Galère, on peut parler de tout, mais on ne peut pas prendre ce qu'on s'appelle de. Enfin bref, nous avons la charte, il faut la respecter, c'est tout, voilà. Donc nous sommes apolitiques, mais rien ne nous empêche quand même de parler un peu de ce qui va se passer donc ce dimanche prochain avec une triangulaire, M. Benoît Payan et deux autres. Voilà. Alors, municipal à Marseille, donc 2026, Alizio au contact. Benoît Payan ne veut faire aucune tambouille avec la LFI. Voilà. Le premier tour des élections législatives municipales, pardon, voilà, le premier tour des élections municipales, pardon, pas législatives, a livré son verdict à Marseille, ce dimanche 15 mars 2026. Alors, jour J pour le premier tour des élections municipales à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Dans la cité phocéenne, Benoît Payan, printemps marseillais, met son mandat en jeu. Le maire sortant espère cette fois être élu sur son nom après avoir remplacé Michel Rubicola. 6 mois après son élection en 2020, face à lui, le député Franck Alizio rêve de faire tomber la deuxième ville de France et la placer dans le giron du Rassemblement national. Enfin, deux auxiliaires essaieront de rejoindre le second tour, Martine Vassal, d'Hiver Droite, et Sébastien Delegu, LFI. Les autres candidats sont Erwan Davoux, DVC, d'Hiver Gauche, Christine Juste, DVG, et Rémi Basali, Lutte Ouvrière, et Coralie Reynaud, partie donc des travailleurs. Voilà, bon. Donc, prochaine élection. Dimanche prochain, et là nous serons exactement qui sera président, donc pas président non, mais qui, nous verrons qui sera le maire de la ville de Marseille. Et j'en resterai là. Il est, oui.
Oui, je tiens juste à rappeler, pour éviter tout problème, quoi, que je vous rappelle qu'en définitive, ce vote était concerné par deux urnes dans chaque bureau de vote. Hein. Je tiens à le rappeler, ça fait partie quand même de la fonction d'électeur. Ensuite, il faut savoir une autre chose également, c'est que si M. Delogu s'est retiré, il ne faut pas oublier que la Marseille fière et populaire est toujours présent dans certains secteurs. Hein, comme tout compte fait, il reste quatre secteurs, hein, je dirais, le 2-3, le 1-7, le 4-5 et le 15-16. Voilà, il est toujours bon de le rappeler. Donc on vous appelle à voter, on vous le rappelle, c'est votre devoir d'électeur. Ceci dit, moi, je vous dis au revoir et je laisse la parole à Daniel qui va conclure sur ce truc.
Voilà, il est 14h23, je n'ai plus grand-chose à dire. Il est temps pour nous de rendre l'antenne et nous vous disons rendez-vous le premier mercredi du mois avec la Libre Pensée. Bon après-midi à toutes et à tous. J'ai plus